Vous écoutez Europe 1, il est 13h.
Europe 1, 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver vraiment. Hein. Bienvenue à bord Europe 1 13h. Vous le savez, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Dans ce journal, le Premier ministre est à Nice pour superviser une expérimentation dans un établissement scolaire, des internats éducatifs pour enrayer la violence des mineurs. Europe 1 est avec Gabriel Attal. Le projet de loi sur la fin de vie entame son marathon législatif à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec le début des auditions par la commission spéciale et déjà une polémique. L'actualité, c'est aussi le chanteur Kenji Girac, blessé par balle au thorax et hospitalisé à Bordeaux. Une enquête est en cours, tous les détails dans quelques instants. Et puis, c'est le début de la semaine de la vaccination. Êtes-vous à jour? La Haute Autorité de Santé veut simplifier le calendrier pour toutes les tranches d'âge. Rendez-vous à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Hamon, la tendance météo pour ce lundi après-midi.
Averse sur le nord et l'est du pays, soleil au sud, des températures qui sont fraîches pour la saison, 10 à 15 degrés en général, jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 13h avec ce reportage édifiant à Montpellier. Alors que l'opération Place Nette pour enrayer le narcotrafic a permis d'interpeller 7 personnes et de saisir 17 kilos de cannabis, eh bien un mois plus tard, le trafic a repris de plus belle, notamment dans le très sensible quartier d'Aiglongue. L'arrogance des dealers, vous allez l'entendre, est sidérante. Le reportage de Charles L'Huillier.
300 logements HLM, 1000 habitants et une activité liée à la drogue qui a repris comme au premier jour. Mais cela ne perturbe en rien la vie de la cité, assure Younes, l'un des grands du quartier.
Ici, comme je te dis, t'as dit ta voiture, tu laisses les clés, ça bouge pas, y a pas de vol.
On a retrouvé quand même une Kalachnikov dans l'un des appartements.
Et ouais, au cas où, c'est la sécurité, t'as vu.
Younes, qui sait de quoi il parle, c'est lui le patron des guetteurs ici.
Je suis payé 150 euros par jour, j'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les déplacer de leur poste et les payer. D'accord. Et ils touchent 130 euros par jour.
Des guetteurs, tous très jeunes, à l'image de cet adolescent de 14 ans à la voix juvénile, pas du tout inquiété suite à l'opération Place Nette.
On est des employés, c'est un point de deal.
Tu sais, il y a eu l'opération Place Nette là.
Ouais, on s'en bat les couilles. Tous les jours, le point de deal, il est ouvert. Il y a toujours des toxicomanes, tant que ça nous paye, faut que le hazi débite.
L'argent qui va continuer à couler à flot ici, malgré la récente opération, le business lié à la drogue dans ce quartier générerait 200 000 euros par mois. À Montpellier, Charles L'Huillier, Europe 1.
Des témoignages édifiants hein, recueillis par Charles L'Huillier. Et à ce jour, 473 opérations Place Nette ont été lancées, donnant lieu à 3800 interpellations. 3 tonnes de cannabis et plus de 600 armes ont été saisies. L'actualité de ce lundi 22 avril, c'est aussi le déplacement de Gabriel Attal ce matin à Nice, aux côtés d'Éric Dupond-Moretti. Et ce pour inaugurer un internat éducatif pour les élèves en décrochage scolaire. Pendant 15 jours de vacances, eh bien une vingtaine d'élèves de 13 à 16 ans vivront en immersion, encadrés par des éducateurs spécialisés. Alexandre Chauveau, vous suivez ce déplacement pour Europe 1. L'objectif, c'est d'empêcher ces jeunes de tomber dans la délinquance.
Oui, avec un encadrement assez strict. Réveil à 7h, lever du drapeau et toute une série d'activités éducatives, sportives ou culturelles. Alors parmi les encadrants, on retrouve des retraités de la gendarmerie ou des associations de la protection de l'enfance venues apporter un cadre à des jeunes qui sont sur la mauvaise pente mais qui ne sont pas encore tombés dans la délinquance. Des mineurs inscrits par leurs parents qui ont parfois du mal à trouver les bons remèdes. Écoutez par exemple cette mère de famille.
Il avait besoin d'encadrement, donc là je pense que c'est bien. On va voir 15 jours, là j'espère que vous allez faire le nécessaire avec lui qui va comprendre.
Gabriel Attal, lui, joue les encadrants avec les jeunes.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone.
Sur le téléphone.
Ouais. Bah, c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Le Premier ministre qui se dit convaincu par l'idée de l'internat.
Je pense que l'internat, c'est une très bonne solution. Ça permet de couper un jeune de ses mauvaises fréquentations. Ça permet de redonner un cadre quand à la maison c'est difficile d'en donner parce qu'il y a d'autres frères et sœurs, etc.
Gabriel Attal qui affirme enfin que 50 000 places d'internat sont libres en France. En cas de réussite, l'expérimentation pourrait donc être généralisée à l'ensemble du pays.
Des internats éducatifs pour juguler la violence hein, des mineurs. Qu'en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée ? Bien, venez réagir dès 13h20. Europe 1 13h vous donne la parole.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Les 13h04, la suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Et c'est désormais officiel, à partir de 2025, il faudra passer au moins 9 mois en France au lieu de 6 pour percevoir les prestations sociales. Mayalène Trémollet, cette mesure était réclamée depuis presque un an par le ministère du Budget.
Oui, c'était une mesure voulue en 2023 par Gabriel Attal, alors ministre délégué chargé des comptes publics. Il avait fait de la lutte contre la fraude l'une de ses priorités, comme il l'avait expliqué au micro d'Europe 1.
Moi, je souhaite qu'on relève la condition de résidence pour toucher les allocations sociales en France, résidence sur l'année. On passe tout à 9 mois pour bénéficier des allocations sociales. Ça sera à compter de 2024. Un euro soustrait à la solidarité nationale, c'est de l'État qui recule.
Concrètement, les aides concernées sont par exemple les allocations familiales, la prime à la naissance d'un enfant ou encore la prime vieillesse. Dans l'entourage du Premier ministre, on se félicite de la mise en application rapide d'une mesure de fermeté. Une mesure pour d'une part plaire à la droite, mais aussi montrer que le gouvernement est au travail dans la lutte contre la fraude sociale. On ne peut pas laisser le Rassemblement national dire qu'on ne fait rien, explique un conseiller de Matignon qui ajoute « L'objectif, c'est de faire plus et d'aller plus loin. La fraude sociale que le Premier ministre qualifie d'impôt caché est évaluée à plus d'un milliard d'euros pour 2023. »
Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. À l'Assemblée nationale, cette fois, c'est le début du marathon législatif pour le projet de loi sur la fin de vie et l'aide active à mourir. La commission spéciale présidée par l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Firmin-Lebaudeau, débute ses auditions. Mais ses travaux débutent par une polémique. Jacques Serret, plusieurs collectifs de soignants ne sont pas conviés au débat.
Oui, ils ne sont pas invités alors qu'ils souhaitent être entendus. Selon le Figaro, pas moins de 13 sociétés savantes ont adressé c'est une lettre à la présidente de la commission spéciale, Agnès Firmin-Lebaudeau, ancienne ministre de la Santé, aujourd'hui députée Horizon, et à Olivier Falorni, député Modem, pro-euthanasie, nommé rapporteur de cette commission. Dans ce document, infirmières, gériatres, psychiatres et oncologues, tous font part de leur totale incompréhension. Nous sollicitons officiellement et formellement une audition pour chacune de nos organisations, écrivent-ils. Les soignants que nous représentons seront les premiers concernés par le projet de loi et seront tenus de mettre en œuvre ces dispositions. Position, rappelle-t-il à raison, mais ils ne sont pas conviés, en tout cas pour le moment. Il faut dire que le calendrier est très serré. Si l'examen du texte en commission spéciale débute aujourd'hui, son arrivée dans l'hémicycle au milieu des 577 députés a été fixée au 27 mai. L'exécutif espère que l'Assemblée l'adoptera rapidement avant le 9 juin et les élections européennes.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et si vous souhaitez réagir justement, faut-il convier ce collectif de soignants ? Qu'en pensez-vous ? Venez réagir avec nous. Olivier Dartigol, Georges Fenech seront là dans le studio pour en débattre.
Et vous nous appelez au 01 80 20 39 21 Europe 1, il est 13h07.
Et dans quelques instants, Europe 1 13h continue. Bien sûr, la suite avec le chanteur hein, Kenji Girac blessé par balle au thorax. Les détails hein, sur ce qui pourrait être un accident domestique. Et puis, c'est le début de la semaine européenne de la vaccination. La Haute Autorité de Santé veut simplifier le calendrier vaccinal. Qu'est-ce que cela change pour vous ? Eh bien, la réponse dans une poignée de secondes.
De 13h à 14h, Céline Giraud vous informe sur Europe 1. Europe 1. Europe 1 13h. Merci de nous rejoindre, vous écoutez Europe 1 13h09, la suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Avec cette question, que s'est-il passé cette nuit à Biscarrosse dans les Landes ? Le chanteur Kenji Girac a été blessé par balle hein, cette nuit, touché au thorax. Il a été rapidement pris en charge au CHU de Bordeaux. Stéphane Place, vous êtes justement devant cet hôpital pour Europe 1. À la mi-journée, l'état de santé du chanteur se veut rassurant.
Oui, de sources proches de l'enquête, on a appris ce matin que les jours du chanteur ne sont heureusement plus en danger. Actuellement soigné par les spécialistes du CHU de Bordeaux, Kenji Girac avait été pris en charge par les secours en tout début de matinée, grièvement blessé par balle, touché au niveau du thorax. Le jeune homme de 27 ans qui se trouvait alors sur l'aire de passage des gens du voyage à Biscarrosse dans les Landes, il a été atteint par ce coup de feu vers 5h30, sans que l'on connaisse à l'heure actuelle le déroulement précis des faits. Et c'est évidemment tout l'enjeu des investigations que mènent la gendarmerie, la brigade de recherche de Parentis-en-Born et la section de recherche de Pau sont mobilisés par le procureur de Mont-de-Marsan et il s'agit de comprendre ce qui s'est passé toute la matinée avec l'aide des techniciens de l'identification criminelle et d'une équipe sinofiée. Eh bien, ces enquêteurs ont ratissé la zone qui se trouve à Biscarrosse, non loin de l'aérodrome. Audition, recueil de témoignages, prélèvement d'indices, c'est le travail qu'effectuent les gendarmes avec différentes hypothèses sur la table pour l'instant et beaucoup de questions. Est-ce un accident, comme il peut s'en produire quand on manipule une arme? Est-ce qu'une autre personne, un tiers, serait intervenue ou absolument pas? À qui appartient cette arme aussi? Vous le voyez, il y a des interrogations, elles sont nombreuses, et un scénario qui reste à établir pour comprendre comment le vainqueur de la saison 3 de The Voice, originaire de Dordogne, a été blessé grièvement dans les premières heures de cette journée.
Stéphane Place en direct de Bordeaux pour Europe 1. Ce matin, le gouverneur de la Banque de France présentait sa traditionnelle lettre annuelle au président de la République. Il a profité de l'occasion pour célébrer les 25 ans de l'euro. Mais au-delà d'un satisfecit sur la baisse de l'inflation, le gouverneur alerte sur la méthode de l'exécutif pour réduire le déficit. Barthélémy Philippe.
Et oui, Céline, le gouverneur s'élève contre ceux qui croient qu'un retour de la croissance suffira à réduire le déficit. Or, c'est bien la méthode d'Emmanuel Macron depuis 2017 et ces dernières semaines encore. Le président demande même au ministre de ne pas insister sur la baisse des dépenses publiques. Mais pour François Villeroy de Gallo, la réduction du déficit et de la dette passe bien par un effort de maîtrise des dépenses. Il faut au moins les stabiliser en volume, dit-il. Les dépenses de l'État et des collectivités, bien sûr, mais aussi les dépenses sociales. Enfin, sur la fiscalité, le gouverneur est formel. Notre pays n'a pas les moyens de faire de nouvelles baisses d'impôts non financées. Là aussi, l'exécutif est visé à demi-mot, car Emmanuel Macron maintient sa promesse de baisser les impôts pour la classe moyenne l'an prochain. Autre divergence, le locataire de l'Élysée se refuse à toute hausse d'impôts. Or, pour le gouverneur, il ne faut pas écarter des mesures fiscales ciblées sur les ménages et les entreprises.
Les précisions de Barthélémy Philippe du service économique d'Europe 1. En pleine guerre à Gaza, sachez que le chef du renseignement militaire israélien Aaron Aliva a présenté sa démission aujourd'hui. Il dit assumer sa responsabilité dans l'anticipation de l'attaque du 7 octobre dernier.
Il est 13h13 sur Europe 1 et à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination, la Haute Autorité de Santé veut simplifier, Céline, le calendrier vaccinal.
Oui, 84% des Français sont favorables à la vaccination, mais pas toujours bien informés. Les échéances se sont éparpillées tout au long de sa vie. Difficile de s'y retrouver à l'âge adulte, notamment quand on perd son carnet de santé, ça arrive. Mélanie Gomez, la Haute Autorité de Santé, souhaite faire passer un message urgent. Il y a 3 tranches d'âge où il faut aller se faire vacciner.
Oui, tous les parents le savent, plusieurs vaccins doivent être faits entre la naissance et les 3 ans de chaque enfant. En revanche, beaucoup d'entre nous ignorent qu'entre 11 et 14 ans, puis à partir de 65 ans, il faut se refaire vacciner. Des périodes durant lesquelles le système immunitaire est plus vulnérable, alerte Anne-Claude Crémieux, professeur en infectiologie et présidente de la commission technique des vaccinations à la HAS.
Les adolescents, ils vont avoir des interactions sociales très importantes, ce qui va les amener à être au contact avec des agents pathogènes, comme par exemple le méningocoque, et évidemment le papillomavirus. Et puis les plus de 65 ans, à ce moment-là, nos défenses contre les infections sont moins efficaces. On doit tenir compte de sa fragilité plus importante aux infections, se faire vacciner.
Alors cet infectiologue en est convaincu, c'est grâce à ces explications simples que les personnes concernées retiendront le calendrier vaccinal. Avec ou sans carnet de santé à jour, à l'adolescence et après 65 ans, il est donc recommandé de faire le point avec son médecin ou même avec son pharmacien. Car oui, ça vous a peut-être échappé, mais depuis l'été dernier, les pharmaciens peuvent aussi bien prescrire qu'administrer tous les vaccins chez les patients de plus de 11 ans.
Merci Mélanie Gomez pour toutes ces précisions, chef du service Société à Europe 1. 13h14, on fait un point comme chaque jour sur les marchés. Avec vous Claire Lemaître de Boursier.com, c'est lundi et un CAC 40 très prudent.
Oui, une toute petite hausse, plus 0,1%, 8032 points. Et le CAC 40 qui avance sur la pointe des pieds avant une vague de résultats, les résultats notamment des géants américains de la tech, avec Meta, Tesla, Alphabet ou encore Microsoft. Et on attend aussi cette semaine des indicateurs économiques essentiels aux États-Unis pour la trajectoire des taux. À Paris, Alstom a annoncé la vente de son activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord, opération à 630 millions d'euros. Le titre était en hausse ce matin, mais il perd maintenant 0,7%. Et c'est du vert pour les banques. Crédit Agricole et BNP Paribas gagnent plus de 1%, plus 0,8% pour Société Générale. Les indices européens sont en hausse. Londres gagne plus de 1%, plus 0,6% pour Francfort, plus 0,3% pour Amsterdam, plus 0,1% pour le CAC 40 à Paris, 8032 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. La météo maintenant avec vous Géraldine Hamon et des températures toujours très fraîches pour la saison.
Exactement Céline, il fera par exemple 8 degrés à Grenoble, 10 degrés à Boulogne-sur-Mer, 11 à Nancy, 12 à Saint-Brieuc et Lyon, 13 à Paris, 14 degrés à Rennes, 16 degrés à Bastia et Toulon, jusqu'à 17 degrés à Ajaccio et Quimper. Pour le ciel maintenant, eh bien c'est un temps instable qui résiste sur l'est avec de faibles averses de l'Alsace-Lorraine au centre-est et des flocons qui vont tomber sur les Alpes du Nord et les Vosges et le Jura. Un peu de neige aussi est attendu sur le massif central. En Provence et en Corse, ces averses seront plus fréquentes et peuvent être accompagnées de quelques orages sur la Côte d'Azur notamment. En haut, au nord, sur les côtes de la Manche notamment, de petites ondées s'étendent de la Bretagne et la Normandie aux Ardennes en passant par le centre. Notez aussi qu'une nouvelle perturbation va arriver par le nord-ouest ce soir. Sur le reste du pays, le temps est un peu plus calme avec de belles éclaircies. Attention puisque le Mistral et la Tramontane se renforcent et vont souffler en rafale jusqu'à 80 km/h. Et demain, le temps sera encore faiblement perturbé sur le nord-ouest et les températures toujours aussi fraîches pour la saison.
Merci. On garde les gants et la doudoune. Voilà. Merci Géraldine Hamon. Et nous, on reste ensemble évidemment jusqu'à 14h au chaud avec vous sur Europe 1. Décryptage avec Georges Fenech et Olivier Dartigolle. On va revenir évidemment sur le déplacement de Gabriel Attal à Nice pour expérimenter ses internats éducatifs. Les élections européennes, bien sûr. Bardella, toujours en tête dans les sondages, qui souhaite la dissolution de l'Assemblée en cas de victoire. Ce maire du côté de Myon, qui démissionne et dénonce des attaques antisémites à son égard. D'autres sujets bien sûr avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Venez réagir, Europe 1 13h vous donne la parole.
De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud. Bon début d'après-midi sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Il est 13h20, vous écoutez Céline Géraud jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité Céline. Le chroniqueur politique Olivier Dartigolle et l'ancien juge d'instruction Georges Fenech.
Je ris parce que je suis contente de retrouver évidemment nos auditeurs sur Europe 1 et je vois le sourire d'Olivier Dartigolle.
Me mets dans le match. Là.
Voilà, vous mettez dans le match, vous avez bien fait. Bonjour Georges.
Il faut faire attention.
Voilà, je compte évidemment comme chaque jour sur votre sagacité pour décrypter l'actualité et on va évidemment débuter par ce déplacement de Gabriel Attal ce matin dans le collège-lycée du parc impérial de Nice. L'objectif, c'était inaugurer un internat éducatif pour les élèves en décrochage scolaire. L'expérimentation, je le rappelle, a lieu pendant les vacances scolaires et sur la base du volontariat, c'est important, doit permettre d'extraire de leur quartier des mineurs en difficulté afin qu'ils ne retombent ou qu'ils ne tombent pas dans la délinquance. Faire du préventif, Georges Fenech, c'est une bonne idée.
Mais bien sûr qu'il faut saluer cette initiative. Ce que je crains tout de même, c'est l'inefficacité dans la mesure où ça repose sur le volontariat. Je rappelle que d'ores et déjà, ça existe depuis très longtemps, dans le cadre de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, le juge des enfants peut parfaitement, lorsqu'il constate qu'il y a un danger pour l'enfant, un danger, disons, pré-délinquentiel, il peut très bien prendre une ordonnance de placement provisoire, dans le cadre de l'ordonnance de 58, retirer à la famille provisoirement et le placer dans un internat. C'est déjà possible. Malheureusement, ça ne se fait pas assez souvent. Et moi, ça me rappelle quand, vous vous souvenez, Manuel Valls avait créé des centres de déradicalisation, 4 centres, qui reposaient sur le volontariat. Faute de combattants, les centres ont fermé.
Alors que là, on a 50 000 places d'internat qui sont vides aujourd'hui en France.
Sur le volontariat.
Gabriel Attal.
Faudra convaincre les familles.
Olivier Dartigolle, sur le préventif, on a beaucoup parlé du pénal, du judiciaire.
Je veux bien commencer la semaine par un bon point accordé au Premier ministre Attal, mais il ne faut pas en prendre l'habitude trop.
Bons points sont très rares quand même.
Oui, non, mais le sens où pourquoi pas. C'est-à-dire que sortir un jeune d'un milieu toxique, du bas d'immeuble, d'un quartier, pour le mettre dans un espace où il va pouvoir y avoir un accompagnement.
On a entendu tout à l'heure sur Europe 1 des parents.
Oui,
parce
oui,
que
oui.
ce sont des primo-délinquants, une vingtaine de 13 à 16 ans qui sont extraits d'un quartier.
Voilà, alors, avant le décrochage scolaire, avant tout le processus qu'il peut y avoir après. Donc oui, pourquoi pas. Le seul problème, concernant le Premier ministre, il faudra voir jusqu'où va la communication et où démarre l'action après. Il ne faut pas que la communication remplace l'action. Je pointe la même difficulté que Georges sur ce volontariat. L'échange d'ailleurs entre le Premier ministre et certains jeunes ce matin était assez amusant à suivre sur cette volonté ou pas des élèves d'être dans cette idée. Moi, pour ma génération, quand on disait si tu continues, tu vas faire un internat, c'était pas une très bonne... c'était pas un bon signal.
Oui.
On se ressaisissait peut-être un peu.
L'idée, c'est d'éviter les mauvaises fréquentations pendant les vacances scolaires où les enfants sont souvent désœuvrés.
Alors, pourquoi pas, mais ça me semble pas être à la hauteur de ce qu'il faudrait mobiliser comme politique publique pour répondre à la difficulté à laquelle on doit faire face.
Mais bon, vous donnez un bon point. On a Gérard, tiens, qui nous appelle, qui nous écoute. Bonjour Gérard.
Oui,
merci
bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes retraité et vous vouliez réagir justement sur cet internat éducatif. Bonne ou mauvaise idée pour vous ?
Mais écoutez, tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde,
bonjour
aux auditeurs. Et surtout, je voudrais dire, je représente une génération, j'ai 71 ans, et aujourd'hui, dans 45 jours, on va fêter le débarquement, les gens qui sont morts pour la France, qui sont morts pour une société libre et qui sont plus heureuses. Si aujourd'hui, ils étaient là, ces anciens, je crois qu'ils pleureraient, ils diraient, c'est pas possible que vous êtes amenés à ce niveau-là. Donc, je reviendrai sur le sujet du Premier ministre qui aujourd'hui inaugure cette maison à Nice. Eh bien, moi, je dirais qu'aujourd'hui, cette maison, j'en comprends pas trop le sens. C'est-à-dire, est-ce que c'est la rééducation ? Est-ce que c'est pour éviter que les gens qui sont déjà à la limite de la délinquance, est-ce que vous pensez, moi, je pense qu'en 15 jours, mettre un enfant, un enfant, bien sûr, dans ce milieu, je crois que 15 jours, moi, je dis honnêtement, excusez-moi la citation que je vais vous donner, qui est celle des anciens, c'est pisser dans un violon.
Oui, pour vous, ça ne sert à rien. Mais pourtant, c'est du préventif. L'idée, vous l'avez compris, hein, c'est d'éviter effectivement que ces gamins basculent dans la délinquance.
Voilà. Alors, pour éviter de basculer dans la délinquance, la réflexion, je vais vous dire que moi, j'ai fait 40 ans de psychanalyse. Quand on analyse le problème de la délinquance, il vient d'où ? Le problème de la délinquance, si pendant 15 jours, vous enlevez un enfant dans un milieu qui est complètement néfaste, c'est-à-dire toxique, c'est-à-dire que des parents qui ne sont pas capables d'éduquer et d'élever l'enfant, ce sont deux mots différents, élever et éduquer un enfant, pensez-vous qu'au bout de 15 jours, quand il va revenir dans ce milieu toxique, l'enfant va avoir appris une leçon ? Non. Ben, je pense que ce n'est pas...
Vous pensez que ça ne vaut pas le coup d'essayer ?
Écoutez, tout est bon d'essayer, sauf que n'oublions pas que nous sommes déjà dans des chiffres. Et les chiffres, quand on dit que 750 euros par jour, par enfant, pour 15 jours, il y en a pour 11 250. Quand on voit déjà aujourd'hui l'endettement, gaspiller de l'argent, est-ce que vraiment, je dis, bon, si on a vraiment de l'argent, et tout est bon à prendre pour éduquer, pour mettre sur le chemin quelqu'un qui a déraillé, ou qui ne sait même pas ce que c'est le déraillement.
Merci,
et le
Gérard.
Bon chemin.
C'est intéressant ce que vous dites. Merci Gérard pour votre témoignage. On parle de l'argent justement que ça pourrait coûter. On parle de 750 euros, effectivement, Gérard le rappelait, par jour et par enfant. Il y a une vingtaine d'enfants dans cette expérimentation.
Ben oui, ça coûte très cher. Mais moi, ce que je constate encore une fois, on est sur le registre préventif. C'est très bien, mais moi, j'attends toujours qu'on rétablisse les courtes peines d'emprisonnement, qu'on réfléchisse...
Ça, c'est dans les tuyaux aussi. Hein.
Ouf, attendons de voir. Hein.
Oui.
Attendons de voir, parce que ça a été supprimé il y a peu de temps. Hein. Qu'on fasse des comparutions immédiates pour les mineurs, notamment récidivistes. qu'on ne rende plus automatique l'excuse atteignante de minorité pour les mineurs entre 16 et 18 ans, qu'on nous dise on va construire au moins un centre éducatif fermé par département, ce qui est loin d'être le cas, il y en a je crois 54 aujourd'hui, donc qu'on mette l'accent, comme ça a été fait ce matin, sur le préventif, bravo, mais nettement insuffisant.
Olivier D'Artigol.
Comme Georges a pris le côté pénal, je vais peut-être prendre le côté prévention. Je suis d'accord avec le monsieur, comme quoi ça ne peut pas régler, cette seule réponse ne peut pas régler toute la situation. Je l'ai parfois dit, je préfère des gardiens d'immeubles à des interphones, et je préfère qu'on puisse réfléchir à l'efficacité nouvelle de l'aide sociale à l'enfance. Je préfère qu'on revienne vers des colonies de vacances pour sortir justement des jeunes d'un milieu défavorisé. Je préférerais que les missions locales travaillent plus en adéquation avec l'ensemble des acteurs publics pour justement traiter les jeunes qui sont en situation de décrochage et d'échec.
D'accord, en fait, c'est des maisons de redressement qu'on
oui,
propose.
Oui, donc il y a plusieurs leviers à actionner. Il peut y avoir de l'aide à la parentalité pour les parents qui en conscience sont en difficulté. Il faut une sanction très forte pour des familles qui sont associées au trafic de drogue. Il y a beaucoup de leviers à actionner. Là, le gouvernement braque les projecteurs médiatiques sur une proposition aujourd'hui. Il y en faudra bien sûr beaucoup d'autres, mais commençons par ce qui peut être obtenu, en effet.
On suivra évidemment la suite de ce déplacement à Nice dans nos différentes éditions sur Europe 1. Et nous restons ensemble avec vous, Georges Fenech, avec Olivier D'Artigol et vous, auditeurs d'Europe 1, dans quelques instants. On va décrypter l'actualité, cette fois-ci des élections européennes, avec Jordan Bardella toujours en tête dans les sondages, qui souhaite la dissolution de l'Assemblée en cas de victoire. Si, si, à tout de suite sur Europe 1.
Vous écoutez Céline Giraud de 13h à 14h. Bon début d'après-midi sur Europe 1.
Europe 1. Europe 1, le journal permanent.
À 13h32 sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud.
Kenji Girac, grièvement blessé par balle cette nuit à Biscarrosse. Le pronostic vital du chanteur n'est pas engagé. Touché au thorax, il a été transporté à l'hôpital de Bordeaux. Il se dit victime d'un accident domestique avec une arme achetée dans une brocante. Gabriel Attal est à Nice. Le Premier ministre lance l'expérimentation d'un internat pour les élèves en décrochage scolaire. Des cours de soutien scolaire et d'éducation civique pendant les vacances d'élèves volontaires sont proposés. Ouverture aujourd'hui du procès en appel de l'attentat de Nice. 86 personnes ont été tuées le 14 juillet 2016. Deux hommes sont rejugés pour complicité après avoir été condamnés à 18 ans de prison en première instance. C'est le début d'un parcours qui pourrait durer jusqu'à 2 ans. Le projet de loi sur la fin de vie arrive à l'Assemblée nationale où la commission spéciale va mener des auditions pendant 1 mois. Un projet remanié arrivera dans l'hémicycle le 27 mai. Et puis en Israël, le chef du renseignement militaire démissionne en pleine guerre à Gaza. Selon l'armée israélienne, le général Aharon Aliva assume sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas en Israël. Il s'agit du premier responsable israélien démissionné depuis l'incursion sanglante du mouvement terroriste palestinien.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1, Europe 1 13h. La suite avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol.
Et on va parler maintenant avec vous, messieurs, de ces élections européennes dans un entretien exclusif au journal du dimanche. Jordan Bardella affirme que si les Français le placent largement en tête, il demandera dès le soir du 9 juin la dissolution de l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de cette stratégie, Georges Fenech ?
C'est une stratégie politique logique de la part de Jordan Bardella qui surfe dans les sondages.
Au-dessus de 30%, a priori, selon les derniers sondages.
Sauf que n'oublions pas que la dissolution, c'est un pouvoir personnel, discrétionnaire, je dirais, du président de la République. On ne demande pas une dissolution. C'est lui qui la décide. La dernière n'a pas été une grande réussite, on s'en souvient, avec Jacques Chirac. Donc, une dissolution, si vous voulez, c'est vraiment quand le pays est bloqué. Est-ce qu'après les élections européennes, même dans l'hypothèse fort vraisemblable d'ailleurs, où le Rassemblement national arrive largement en tête, est-ce que ça va bloquer les institutions et le pays? Je ne le crois pas. Donc là, on est un peu dans... Bon, on sent qu'il y a une volonté, en tout cas...
En tout cas, de volonté de marquer
de se préparer à l'exercice du pouvoir.
Pour pas que la victoire soit inutile, quoi.
C'est ça.
Il y a cette idée-là.
Oui, mais Jordan Bardella, qui est très crédité de très bons sondages, même si le sondage n'est pas l'élection, surfe sur un sujet sérieux et qui devient douloureux, celui de la crise politique. Dans le sens où ces élections européennes qui portent sur la question européenne sont quelque peu détournées pour apparaître comme ces élections à mi-mandat aux États-Unis, ouais. les midterms.
Ouais.
Et comme Emmanuel Macron, connaissant cette fracture, cette crise démocratique, avait annoncé au début de son second quinquennat qu'il proposerait une respiration démocratique, pour reprendre le terme qui avait été le sien, une respiration démocratique, c'est que ça peut être un référendum sur un sujet particulier. Il se retrouve dans une situation où ces élections européennes vont être, bien évidemment, avoir une dimension politique extrêmement forte, bien plus forte que celle de 2019 qui s'était déroulée dans un tout autre climat. Donc Jordan Bardella, qui est un responsable politique, il sent très bien ce climat. Mais je suis d'accord avec Georges, l'élection porte sur le projet européen.
Oui, c'est ça.
Une dissolution, c'est autre chose.
Mais en fait, on sent qu'il a peur de décevoir. D'ailleurs, il le dit, j'ai peur de décevoir. C'est ce qu'il dit, Jordan Bardella. Il se met la pression,
il y a beaucoup de communication politique. Il a peur d'une démobilisation de son camp. Vous savez, aux élections européennes, vous avez à peu près, si vous arrivez bon an, mal an, à 50% de participation, c'est bien. Donc, il faut mobiliser son camp. Oui. Il a la crainte que des sondages qui le mettent très haut avec un décrochage de la liste Renaissance et avec un petit moment Glucksmann fasse que les personnes se disent bon, mais c'est joué pour lui, il n'y a pas besoin de se déplacer. Il va donc surjouer tout ça jusqu'au dernier jour.
L'hypothèse d'une dissolution se posera plus sérieusement si une motion de censure était votée par les oppositions. C'est là que se posera effectivement. Et encore que même une motion de censure
peut changer le Premier ministre.
Il peut changer simplement de Premier ministre. Donc, je dirais attention, attendons un petit peu.
D'autant qu'au même moment, Emmanuel Macron annonce que jeudi, il va prononcer un grand discours sur l'Europe à l'Université de la Sorbonne, où il présentera donc ses propositions de grandes orientations pour l'avenir de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron est obligé de mouiller le maillot pour aller soutenir le soldat
Hayé? C'est un récidiviste, puisqu'on a eu la Sorbonne 1. De mémoire, c'était tout juste après son élection de 2017. J'ai souvenir aussi du déplacement à Athènes avec l'Acropole. C'était le moment un peu Europe du nouveau président, qui avait les allures de nouveau Kennedy et qui voulait très certainement annoncer son futur leadership sur l'Union européenne et sur le projet européen. Sauf que ce qu'il nous avait raconté ne s'est pas passé comme il avait espéré, escompté. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a été contesté et ô combien dans sa volonté de mettre la main politiquement sur le projet européen. Donc là, il retente ça pour donner beaucoup, les macronistes attendent beaucoup de cette intervention jeudi, peut-être même un peu trop.
En tout cas,
on annonce y compris les chefs à plumes, c'est-à-dire les chefs de des partis de la majorité en queue de liste pour essayer de densifier tout ça. Ça donne le sentiment d'une opération de dernière chance.
Son entrée dans la campagne, c'est quand même une prise de risque, parce que s'il y a un échec douloureux pour la Macronie au niveau européen, il en supportera les conséquences politiques sur le plan intérieur, puisqu'il se sera engagé très fortement.
Et il faut sauver le soldat Valérie Hayé, qui souffre.
Fait ce qu'elle peut.
Beaucoup.
Bon, elle a progressé,
fait ce qu'elle peut,
faut reconnaître.
Enfin, en disant ça, c'est un aveu d'échec.
Mais c'était pas le premier choix des macronistes. Elle a eu plutôt du courage. Elle connaît l'institution européenne. Elle préside un groupe qui est un groupe influent au Parlement européen. Elle fait, pour moi, elle fait le job pour
mais
ce qui lui a été demandé.
Mais elle ne fait pas l'unanimité, y compris dans sa majorité.
Oui, mais ils sont sympathiques. Bah, notamment, c'est souvent des critiques venant de mâles blancs depuis de 60 ans, pour résumer, qui ont refusé d'aller au combat électoral, qui ont refusé de prendre le leadership de cette liste parce qu'il y avait des coups à prendre. Oui. Donc moi, je n'aime pas quand la vie politique fait que ceux qui auraient pu y aller
n'y vont
après,
pas et critiquent.
Prennent un peu de pop-corn et regardent le cinéma.
Parce que si le président de la République s'engage aussi fortement personnellement, c'est qu'il sent bien aussi qu'on est peut-être à un moment de bascule au niveau européen. C'est la première fois véritablement que disons ce qu'on appelle les populistes, les partis populistes, sont en passe peut-être de l'emporter. Donc on est sur vraiment la question du projet européen pour demain. Est-ce qu'il y aura une rupture ou pas? C'est une élection européenne, pas comme les autres.
Et avec une autre dimension, Georges, c'est que si véritablement la liste RN est très nettement au-dessus de 30. Et si la liste
qui serait le meilleur score aux Européens de toute l'histoire du RN.
Et si, parce qu'au dernier coup, ils étaient à touche-touche. Donc il y avait eu un resserrement. Et si la liste Renaissance est très en deçà des 20 et se fait un peu challenger par Lisk et Glucksmann, c'est un paysage politique catastrophique pour le président Macron à 3 ans du fait qu'il devra quitter la scène politique, en tout cas concernant la présidentielle.
Georges Fenech.
Oui, je partage. Il y aura, de toute façon, il y aura peut-être sans doute pas de dissolution, mais il y aura en tout cas des répercussions sur le plan politique interne. Si vous imaginez, le lendemain, une victoire écrasante, le RN faisant le double, par exemple, que Macron, ça ne pourra pas rester sans réponse politique. Il faudra bien que le président de la République trouve un nouvel élan, une nouvelle respiration. C'est lui qui a les cartes en main pour redonner de la vigueur à sa majorité relative.
D'autant plus que Gabriel Attal a été nommé en nous le présentant comme l'arme anti-Bardella.
Alors justement, est-ce qu'en proposant cette dissolution, hein, si jamais il gagnait dès le soir du 9 juin, Jordan Bardella ne rediabolise pas aussi un peu le Rassemblement national ?
Bon, non, je pense pas qu'il le rediabolise. Il joue avec les institutions, ce qui n'est jamais très bon. C'est comme Jean-Luc Mélenchon avait dit, élisez-moi Premier ministre. Moi, je pense que dans le moment que nous traversons, il est important de dire que l'élection porte sur le sujet sur lequel les électeurs sont convoqués. J'espère vraiment qu'on aura dans les semaines à venir, on pourra en débattre, je l'espère, ici, un approfondissement du débat européen. Il a été un peu amorcé sur quelques plateaux, mais ça reste quand même assez pauvre. Or, l'Union européenne est face à des défis monstrueux, gigantesques, vertigineux même.
Mais
trouve que le débat est un peu faiblard.
Est-ce qu'il a un peu intérêt, justement, Bardella, à arriver aussitôt à Matignon ? Est-ce que ce n'est pas une erreur, 2 ans avant 2027, d'arriver trop tôt à Matignon ? Écoutez, en tentant ce coup de poker.
On voit bien que les ambitions, elles sont là, qui sont en train de se préparer. Ce qui est nouveau quand même au Rassemblement National, ex-Front National, qui était plutôt un parti de contestataire, un parti d'opposition contestataire, là, il se pose cet appel, cette suggestion, et non pas proposition, cette suggestion au président de la République d'une éventuelle dissolution. Ça veut dire quoi en termes électoraux ? Ça veut dire nous sommes prêts à exercer le pouvoir. Nous ne sommes pas uniquement dans l'incantation.
Est-ce que c'est vraiment sincère ? Est-ce que c'est vraiment sincère ?
C'est ce message qu'il essaye de faire passer. On est prêt. En fait, on est prêt, quoi.
Mais est-ce que c'est vraiment sincère ? Pardon, je repose la question. Est-ce qu'il préfère pas attendre 2027, Jordan Bardella ?
Non, je crois que le Rassemblement national, doté aujourd'hui d'un groupe important à l'Assemblée nationale, avec un réseau national qui a été construit au cours des années, qui n'existait pas à l'époque du Front National, canal historique, fait que, véritablement, le Rassemblement national se présente et s'organise aujourd'hui comme une alternative politique au président Macron et à Gabriel Attal à Matignon. Je ne pense pas qu'ils font croire que, je crois au contraire qu'ils se préparent à cette échéance-là.
Allez, 13h43, on reste ensemble jusqu'à 14h, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Évidemment, on vous attend pour réagir. On va parler, notamment de ce maire, Claude Cohen, qui jette l'éponge, qui démissionne et dénonce des attaques antisémites à son égard. Et puis le projet de loi sur la fin de vie, début des travaux aujourd'hui de la commission spéciale, est déjà une polémique. Et puis on reviendra aussi sur cette manifestation, mobilisation qui a dégénéré, les manifestations d'Afghans en colère. On en parlera dans quelques instants avec vous. À tout de suite.
Céline Dire vous accompagne de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Très bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 avec Céline Giraud jusqu'à 14h. C'est Europe 1 13h avec vos deux chroniqueurs du jour. Céline, l'ancien juge d'instruction Georges Fenech et le chroniqueur politique Olivier Dartigol.
Et avec vous, évidemment, 01 80 20 39 21, chers auditeurs d'Europe 1, je voulais revenir sur la détresse d'un maire qui interpelle, un maire qui jette l'éponge. Hier, Claude Cohen, le maire de Nyon, c'est à côté de Lyon, a annoncé démissionner en raison d'une accumulation d'événements, dont un en particulier, des attaques antisémites et un élu communiste qui a porté l'écharpe du Hamas pendant son intervention, assure-t-il à Europe 1. Il affirme d'ailleurs avoir fait vraiment la distinction entre une écharpe de la Palestine et une écharpe du Hamas, Olivier Dartigol.
Bon, d'abord, on adresse un message de soutien à ce maire qui a été visé par ce poison de l'antisémitisme. Ça s'inscrit aussi dans un contexte national où beaucoup d'élus locaux, pour différentes raisons qui s'accumulent dit que la charge devient très lourde, vous verrez qu'on aura aux prochaines élections municipales une crise de vocation, qu'il y aura des communes sans candidat. Je fais un rectificatif, ça a été fait par le Progrès de Lyon, puisque l'élu qui est visé donc par ce maire démissionnaire n'a en aucun cas porté un signe distinctif du Hamas, qui est un groupe terroriste, mais le drapeau palestinien.
D'accord.
Il y a une capture d'écran aujourd'hui sur, c'est bien de le préciser pour la réalité des faits, c'est le Progrès de Lyon qui donc fait une capture d'écran.
Mais c'est la goutte d'eau finalement qui a fait déborder le vase, parce qu'il y avait déjà un...
Oui, mais moi je suis pour que dans ce contexte-là, on puisse dire qu'il est parfaitement possible de faire connaître une solidarité au peuple palestinien, tout en ayant une condamnation très ferme du Hamas, qui est un groupe terroriste, parce que il faut remettre les choses à leur place. Après, cet élu qui a été visé donc par ces attaques-là mérite le soutien de la République, des représentants de l'État et je le crois, de ses collègues, toute sensibilité politique confondue.
Georges Fenech, effectivement, s'il y a la détresse de la il y a un trop-plein quoi, pour ces élus qui ont énormément de pression, et là, c'est la pression de trop.
Alors, Myon, c'est mon ancienne circonscription.
Donc, vous connaissez
Claude
bien.
Claude Cohen, c'est mon ami. C'est moi qui l'ai suggéré de se présenter.
Vous avez été député du Rhône,
j'étais au départ de son engagement politique. On s'est appelé régulièrement depuis 10 ans. Il me faisait part, effectivement, de ces attaques antisémites dont il faisait l'objet. C'est un maire qui s'est incarné dans sa ville. Il l'a vraiment transformé en disant qu'il ne vivait que pour cela. En réalité, il était retraité professionnellement, amoureux de sa ville, engagé à fond dans sa ville, voyez-vous. Et il a essuyé beaucoup, beaucoup de difficultés qui n'ont pas malheureusement entraîné de véritables soutiens de la hiérarchie administrative et notamment de la préfecture. Et ça, il en a beaucoup souffert.
Voilà, vous parlez de lourdeur administrative.
Il a été menacé de décapitation, etc., Claude Cohen. Donc, oui, alors les lourdeurs administratives, c'est encore autre chose. C'est pour faire aboutir les projets auxquels il tenait dans sa ville. Là aussi, il en est très amer. Encore la semaine dernière, il inaugurait une très belle maison de retraite dans le centre-ville de Mions. Donc moi, je lui dis, je ne le blâme pas.
Et vous comprenez sa démission ?
Je le comprends, au bout de 10 ans. Il a assuré sa succession, donc il y aura un conseil municipal bientôt. Michael Paco prendra la relève, c'est un jeune pompier, etc., magnifique. Et puis, il reste quand même conseiller métropolitain, donc il y a quand même son engagement qui va se poursuivre dans d'autres cénacles de la démocratie locale, parce qu'il y est très attaché. Et je dis à Claude, bravo pour tout ce que tu as fait, et bon vent pour l'avenir. Et puis, il aura un peu plus de temps pour s'occuper de ses petits-enfants aussi, je crois qu'il a bien mérité de la République.
Et il peut compter sur le soutien, effectivement, notamment d'Éric Ciotti, le chef des LR, qui lui a exprimé toute sa solidarité. Les attaques antisémites qu'il a endurées sont intolérables, dit Éric Ciotti. La République doit protéger ses élus de l'ignominie.
Oui, l'antisémitisme est un poison, d'où qu'il vienne. Et j'espère qu'on aura collectivement la possibilité de ce sursaut indispensable qui fait partie de l'identité même de la France. La lutte contre l'antisémitisme est au cœur de notre projet républicain. Et que nous puissions, alors que tout fait polémique dans notre pays souvent, qu'on puisse là créer une unité nationale contre ce fléau. Il y a eu des moments très forts qui l'ont permis dernièrement. Il y a des personnes politiques aujourd'hui qui se sont totalement décrédibilisées à jamais sur cette question-là. Bah les masques... Et j'espère que des élus tels que cet élu dont vient de parler très chaleureusement et très joliment Georges, pourront peut-être à l'avenir ressentir un soutien plus ferme, plus immédiat, plus solide des représentants de l'État dans leur département respectif.
Et de la justice, j'ajoute, parce que quand il a été menacé de décapitation antisémitisme, c'est arrivé quand même devant la justice et c'est traduit par un rappel à la loi. C'est pas possible, c'est pas tolérable.
Ce maire a indiqué je ne portais plus plainte à la fin, parce que je voyais que rien n'aboutissait.
Ça ne servait à rien.
Ça, c'est pas possible, ça.
13h50, on est ensemble jusqu'à 14h pour décrypter l'actualité. Et ce lundi, 22 avril, marque aussi le début du marathon législatif pour le projet fin de vie. La commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi a débuté ses auditions à l'Assemblée nationale. Mais Première polémique, une partie des soignants n'a pas été conviée. Dans une lettre adressée à Agnès Firmin-Lebaudeau, la présidente de cette commission, eh bien, un collectif réunissant 13 sociétés savantes et organisations de soignants souligne sa totale incompréhension. Ne pas convier ce collectif de soignants très important, c'est une faute selon vous, Georges Fenech ?
Il faut écouter tout le monde.
Parce que ministres, anciens ministres, médecins sont conviés, mais en revanche, pas de collectif de soignants.
Et je crois que c'est une erreur, oui. Je pense qu'il faut, sur un sujet aussi sensible, qui dépasse largement d'ailleurs les clivages politiques, c'est un problème de conscience pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai vécu ça avec la loi Claeys-Leonetti à l'Assemblée nationale. Ouais. Je veux dire, d'ailleurs, Claeys-Leonetti, vous voyez bien, c'était un socialiste et un LR, donc on a cherché au maximum le consensus. Si vous voulez un minimum de consensus, il faut écouter, entendre tout le monde.
Eh bien, on va écouter Daniel, justement, qui nous écoute à Marseille et qui souhaitait réagir, qui est médecin du travail. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Ne pas convier, effectivement, les collectifs de soignants, c'est une faute, selon vous, pour débattre ?
Une faute, c'est peut-être un bien grand mot, mais effectivement, il est important de convier toutes les personnes qui peuvent être proches de ces malades. Avant d'être médecin du travail, j'étais médecin généraliste et j'ai accompagné des gens en fin de vie. Et effectivement, c'est tout un ensemble qui doit se mettre en marche pour discuter de cette loi qui est quand même importante pour notre fin de vie.
Et pour vous, effectivement, il faut effectivement écouter la voix des soignants parce qu'il y a beaucoup d'avis divergents.
Les avis sont divergents par certaines convictions déjà personnelles, les avis sont divergents par le vécu aussi. Parce que dans le milieu médical, on a toujours vu des gens qui, finalement, bien accompagnés, n'avaient finalement plus envie de mourir non plus. Il faut que ça soit très accompagné, que ça soit encadré. Il faut que les médecins participent effectivement à cette discussion. Il faut faire attention à l'influence de l'entourage. Les gens bien entourés seront peut-être moins enclins à se diriger vers ce type de fin de vie. Les gens moins entourés dans le désordre, peut-être un peu plus. Il faudrait peut-être aussi bien entourer les soins palliatifs, accompagner tous ces gens dans la détresse aussi.
Vous avez la sensation d'être consulté, entendu, vous, en étant effectivement soignant, médecin ?
Moi, je ne fais plus partie de la catégorie de soins, mais il est vrai que des fois, non, je trouve que dans beaucoup de discussions à l'heure actuelle, on prend beaucoup d'avis, mais pas qu'en médecine, sur plein de personnes, mais pas forcément sur les personnes qui vivent ça au quotidien, qui en sont des professionnels. Je crois qu'il faut écouter un peu tout le monde. Ceux qui sont concernés et les professionnels qui agissent donc dans ce sujet-là. On a tous fait des accompagnements de fin de vie. Et après, se posera la question aussi, je lisais un petit peu les textes sur le suicide assisté et sur l'euthanasie, la limite entre les deux. Le suicide assisté, des gens qui n'ont plus la conscience pour le demander. Là, comment va-t-on faire, quoi ?
Merci Daniel, médecin du travail qui nous écoute à Marseille pour ce témoignage éclairant. On l'entend, voilà, il y a une volonté de la part du corps médical d'être entendu.
Oui, j'espère que c'est un couac. Bien évidemment, les soignants doivent être consultés et ô combien. Georges l'a dit, la loi Claeys-Leonetti a été une loi très importante dans notre pays et qui avait permis un consensus, qui avait permis un équilibre. Malheureusement, les moyens n'ont pas été donnés aux soins palliatifs et au développement des unités de soins palliatifs dans notre pays. C'est bien d'avoir un moment législatif de très haut niveau et de qualité, mais si après les politiques publiques ne suivent pas pour la mise en application, ça pose un réel problème. J'espère que, parce que là on va vers un cheminement de 2 ans, j'espère que assez rapidement les moyens seront donnés pour renforcer l'offre de soins palliatifs dans notre pays. Et après, il va falloir trouver un équilibre. Et je pense que notre pays peut y arriver.
Dernier sujet dont je voulais parler avec vous. Vous avez 30 secondes chacun. Vous faire réagir sur cette mobilisation en hommage aux victimes de l'incendie du 7 avril rue de Charonne qui a dégénéré des Afghans. Voilà, il y a eu des heurts. Et c'est une couverture médiatique quasi inexistante de cet événement auquel on a assisté. Olivier Dartigolle.
Je ne comprends pas comment, alors que la manifestation avait pour objet d'exprimer une solidarité à un drame et à des victimes, comment elle peut évoluer de cette manière-là qui est inacceptable avec des troubles à l'ordre public, avec du saccage de mobilier urbain. Donc j'espère que des sanctions seront au rendez-vous.
C'est très choquant pour tous ceux qui ont vu l'image.
Oui.
En fait, qu'est-ce
les images sont assez
ces
violentes.
Ils reprochent à l'enquête de ne pas aller assez vite pour savoir qui a tué leurs deux compatriotes afghans dans cet incendie criminel, puisqu'ils sont morts par balle. Alors que l'on sait, et ça a été rappelé, la brigade criminelle travaille d'arrache-pied pour identifier les circonstances de ces meurtres. Donc là, on voit bien qu'il y a d'une part, c'est très choquant de s'en prendre dans les rues de Paris alors qu'il n'y a pas de responsabilité de quiconque dans cette affaire pour l'instant, en tout cas. Et secondo, qu'effectivement, les médias n'en parlent pas. À part CNews ce matin chez Pascal Praud et chez vous-même, Céline.
C'était samedi dans le 11e arrondissement
alors
de Paris.
Alors qu'ils ont saccagé cette rue, ces clients qui étaient attablés sur les... Vraiment, on se dit, mais où est le maintien de l'ordre aujourd'hui, quoi?
Merci beaucoup.
Pas mieux.
Voilà, Olivier Dartigolle, Georges Fenech, c'est déjà fini, c'est passé très vite encore. Et voilà, on est que lundi, évidemment, on se retrouve demain dès 13h avec toute l'équipe d'Europe 1 13h pour de nouvelles aventures. Et vous, Géraldine?
C'était Céline Giraud sur Europe 1. Et merci, chers auditeurs d'Europe 1, puisque vous le savez, les chiffres d'audience de la radio ont été publiés jeudi dernier par Médiamétrie et la famille Europe 1 s'agrandit encore. Nous sommes fiers et heureux de souhaiter la bienvenue aux 223 000 nouveaux auditeurs qui écoutent Europe 1 tous les jours. C'est la meilleure progression des radios généraliste d'ailleurs, et au total, vous êtes désormais 2 387 000 personnes à écouter Europe 1 chaque jour. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre confiance. Et très bon après-midi avec la suite de vos programmes, bien évidemment. 14h-15h, c'est temps de la traconte sur Europe 1.